I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Sophie de Chivray, la créatrice d'Au Revoir Podcast. L'année 2022 vient de débuter et je vais avoir besoin de ton aide, de votre aide, pour aborder plus sereinement l'avenir du podcast. Jusqu'à présent, j'ai utilisé mes économies pour financer la réalisation de tout le contenu d'Au Revoir Podcast. Depuis septembre 2020, j'ai créé et réalisé des dizaines d'heures de contenu et je dois vous avouer qu'entre le matériel et les abonnements payants, la facture, elle s'élève à près de 1000 euros. C'est important pour moi de proposer du contenu gratuit pour lever le voile sur le deuil périnatal et vous donner la parole. Mais aujourd'hui, je ne suis plus en mesure de financer le podcast toute seule. Alors si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, j'ai mis en place une page sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Le principe est simple, il suffit de se rendre sur la page du podcast Tipeee, tipeee.com/overpodcast, je vous mets le lien dans la description de l'épisode, et de faire un petit don ponctuel à partir d'un euro. Et si vous voulez soutenir le podcast autrement qu'en donnant de l'argent, il y a bien sûr d'autres possibilités. N'hésitez pas à vous abonner à la page aurevoir.podcast sur Instagram, à liker les posts, à partager les épisodes sur les réseaux sociaux ou à mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. Et depuis quelques semaines, des étoiles, vous pouvez aussi en mettre sur la page Spotify d'Au Revoir Podcast. C'est super important de soutenir vos programmes favoris sur les plateformes d'écoute car cela permet de mieux les référencer et de leur donner davantage de visibilité. Et plus de visibilité pour Au Revoir Podcast, c'est aussi plus de visibilité pour le deuil périnatal. Et ça, je ne vais pas y arriver toute seule. J'ai besoin de vous et de votre aide. Je vous remercie par avance pour votre soutien et je vous souhaite une belle écoute. Au Revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruptions médicales de grossesse, de mort in utero ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Le deuil périnatal, c'est l'histoire d'une perte. Perte de l'enfant désiré qu'on s'était imaginé, perte de l'insouciance et de la naïveté, c'est la fin de toutes les projections qu'on s'était faites, c'est le deuil de l'avenir, comme on dit souvent. Le deuil périnatal, c'est aussi cette question qui reste en suspens. Comment envisager la vie et l'avenir maintenant qu'on a côtoyé la mort, que l'enfant tant attendu n'est plus là, dans notre ventre, dans nos bras, maintenant que la grossesse s'est arrêtée et a mis un coup d'arrêt à tout ce que nous avions envisagé. Mais le deuil périnatal, ce n'est pas que ça. Le deuil périnatal, c'est aussi la question de la reconstruction. Et pour se reconstruire, cheminer, essayer de sortir la tête de l'eau, on peut se lancer, parfois, des défis. En recueillant de nombreux témoignages depuis plus d'un an, je me suis rendu compte que le deuil périnatal, comme toutes les épreuves de la vie en fait, nous amène de temps en temps à des choses que nous n'aurions jamais faites avant. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a du positif qui ressort de tout ça, non. Mais il n'empêche que parfois, il peut y avoir des choses belles qui aboutissent. Ce podcast en est la preuve, d'ailleurs, et jamais j'aurais imaginé être capable de mener à bien un tel projet. Avec le recul, on se rend compte qu'on réalise des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé ou qu'on ne s'autorisait même pas à envisager. Ce sont des petits et grands défis qui permettent, par exemple, de se réapproprier son corps ou de se ménager des parenthèses de calme, de sortir de sa zone de confort, de reprendre le contrôle sur son quotidien, de se dépasser, de rendre hommage à son bébé, de faire la paix avec cette histoire de parentalité si difficile, parfois, à porter. Maintenant qu'on a vécu le pire et qu'on est là, tantôt vacillant, tantôt chancelant, mais toujours debout et vivant, on se sent de temps en temps capable d'aller plus loin. La liste de ces défis, elle est longue et il y a autant de possibilités que d'individualités. Alors pour ce nouveau format de Revoir Podcast, j'ai décidé de faire un pas de côté pour vous proposer des témoignages de personnes qui se sont lancées des challenges. Aujourd'hui, c'est Pauline qui va prendre la parole. Pauline Laveau est la maman d'Elias, petit garçon décédé quelques jours après sa naissance, en 2018. Elle a publié il y a quelques mois son premier roman, 9 mois, 9 jours, aux éditions Fayard. Je vous laisse découvrir son histoire.
J'ai ressenti un besoin quasiment vital d'écrire. Et ce besoin, il s'est manifesté quasiment immédiatement après les événements que nous avons connus au mois d'octobre 2018. Dans un premier temps, j'ai eu besoin d'écrire pour comprendre ce qui s'était passé. Dans le fond, mon histoire et l'histoire de notre fils Elias, elle est singulière dans la mesure où on n'a pas du tout vu venir ce qui est arrivé, à savoir la naissance d'un bébé très malade. Et quand je dis « on n'a pas vu », c'est le corps médical n'a pas vu. Mais moi, j'ai ressenti tout au long de ma grossesse qu'il se passait quelque chose d'étrange, et j'avais comme ça une sorte d'intuition que quelque chose n'allait pas. Et finalement, l'écriture, ça a été pour moi nécessaire pour justement aller essayer de comprendre cette intuition et de la d'y mettre des mots, parce que pendant ma grossesse, je me suis beaucoup tue. J'ai pas osé ou très peu parler de ce sentiment, de ce malaise que je ressentais. J'ai voulu écrire pour essayer de comprendre ce que j'avais ressenti et ce que je n'avais pas su dire. Donc l'écrire, c'était une manière de le manifester beaucoup plus fortement et de refaire une place à cette intuition.
Depuis qu'elle a compris que le déménagement n'aurait pas lieu avant son accouchement et que remuer ciel et terre n'y changerait rien, Anna n'a plus grand-chose à faire. Elle essaie de passer le temps comme elle peut, mais les journées lui semblent interminables. Elle se décide tout de même à faire les quelques courses indispensables pour l'arrivée du bébé et même à commander un petit lit pour lui. Des jours durant, elle regarde du coin de l'œil le grand carton qu'elle a posé contre le mur de la cuisine, incapable de le déballer. Vicem insiste pour le faire, elle refuse. Mais à 3 jours du terme, elle craque. Ça va peut-être le décider, pense-t-elle, en s'attelant au montage du berceau. Mais non, rien ne bouge, et Anna regarde ce berceau vide, sans joie. Comme si elle pressentait qu'il resterait éternellement et désespérément vide. 9 mois, 9 jours, page 107.
Ensuite, j'ai eu envie d'écrire pour ne pas oublier. J'étais vraiment... alors dans les premières semaines qui suivent, évidemment, les événements, mon esprit répétait sans cesse les 9 jours qu'on a vécu à l'hôpital. Mais je sentais que très vite, ma mémoire allait sélectionner certaines choses, effacer d'autres. Je le savais parce que j'ai déjà vécu un deuil plus jeune. Et je sais à quel point des événements qui nous semblent inoubliables et marquants, et même s'ils sont terribles, eh bien le temps fait qu'ils s'estompent, enfin les souvenirs s'estompent, et on s'éloigne comme ça de la vérité de ce qu'on a vécu. Donc c'était aussi la deuxième raison pour laquelle j'ai eu besoin d'écrire. Voilà, ça m'a beaucoup aidé effectivement cette écriture, et puis le fait de rendre public ce que j'écrivais assez rapidement, sur Instagram, ça c'est quelque chose que j'ai fait un petit peu pour me forcer à aller au bout de la démarche, parce qu'il y avait quand même des passages qui étaient très 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 difficiles à écrire, très douloureux, et le fait comme ça de créer un compte Instagram, au départ je l'ai fait pour me mettre une sorte de contrainte, une obligation d'aller au bout. J'avais le sentiment que je le devais finalement aux lecteurs qui suivaient mon compte. Au départ, c'était plutôt des gens que je connaissais, hein. Et puis assez rapidement, il y a une communauté qui s'est élargie et j'ai été beaucoup soutenue, encouragée. Je regrette pas de l'avoir fait parce que ça m'a permis quand même d'aller au bout de cette démarche d'écriture, on va dire, des faits. Encore une fois, certains passages étaient vraiment très douloureux, ça réveillait un traumatisme absolument terrible, notamment toute la partie sur l'accouchement, et c'est le fait de l'avoir fait de manière publique qui, je pense, m'a permis d'aller au bout de cette démarche. Et finalement, l'écriture du roman, elle est venue dans un deuxième temps, quand j'ai terminé justement cette partie témoignage. J'avais le sentiment que j'étais pas allée complètement au bout de ma démarche, que j'avais encore des choses à dire, et peut-être des choses qui dépassaient mon seul cas personnel, des choses que j'avais aussi comprises sur la maternité et sur des difficultés qu'on peut rencontrer dans des parcours de maternité, alors évidemment le mien, mais d'autres, parce que je me suis aussi beaucoup nourrie de ce que j'ai découvert, des échanges que j'ai pu avoir avec de très nombreuses femmes, à la fois sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, dans des groupes de parole, etc. Et puis il y avait tout ce que j'avais vu à l'hôpital, et voilà, un propos peut-être un peu plus politique que j'avais envie d'avoir. Donc j'avais déjà travaillé sur une pétition au début de l'année 2020, où il y a eu énormément de mobilisation, mais voilà, j'avais, on va dire, plusieurs sujets qui venaient s'ajouter à mon propre récit personnel. Et c'est comme ça que finalement je me suis dit que la forme du roman m'autoriserait de réunir ces différents sujets dans un seul et même ouvrage. Je l'ai aussi fait sous cette forme-là parce que ça m'a offert une grande liberté par rapport à ma propre histoire. Et puis je dois dire que j'ai beaucoup aimé écrire ce roman. C'était une expérience assez incroyable de créer des personnages, d'imaginer des intrigues, de mélanger des univers et des situations qui se seraient peut-être pas rencontrées dans la vraie vie. Et je dois dire, je me suis laissée embarquer par l'écriture et c'était une très belle expérience. Au point que, et ça peut paraître étrange, quand j'ai été au bout de cette écriture, de l'écriture du roman, et que j'ai vraiment relu à tête reposée, en l'ayant mis de côté pendant quelques semaines, je me suis rendu compte à quel point, effectivement, c'était mon histoire que je racontais. Et j'avais mis une distance, et c'est aussi le choix d'écrire à la troisième personne qui m'a autorisé ça, que j'étais moins, on va dire, bouleversée par mon histoire personnelle. Et voilà, je pense que ça, c'est la force de la littérature aussi.
Les images qui continuent d'affluer dans son esprit se précisent maintenant à une vitesse terrifiante. Elle revoit le regard paniqué de l'obstétricienne découvrant le résultat du prélèvement sur le bébé. Elle entend à nouveau la voix de l'anesthésiste. Tout a dérapé si vite, si violemment. Anna voudrait retenir sa pensée encore quelques instants, se préserver de cette vérité qui s'apprête à fondre sur elle. Elle sait qu'elle ne pourra plus repousser bien longtemps ce moment. Elle aimerait rester encore un peu dans le monde insouciant de ceux qui pensent que l'arrivée d'un bébé n'est qu'une succession de faits heureux de l'annonce à la naissance. Elle sent qu'elle s'apprête à pénétrer dans l'univers redoutable de ceux qui savent que chaque naissance est un miracle, l'heureux dénouement d'une danse menaçante et jamais gagnée d'avance entre la vie et la mort. 9 mois 9 jours, pages 145 et 146.
Et puis parler de l'hôpital, c'était aussi un moyen de raconter ce qui se passe à l'hôpital public, c'est-à-dire de s'éloigner, on va dire, de la situation qu'on suit, qui est le cœur de l'intrigue, hein, qui part de la grossesse et qui va jusque malheureusement au décès du bébé. Mais c'était raconter tout ce qui se passe autour dans un hôpital, un service de réanimation néonatale de l'hôpital public français, avec ce qu'on sait sur les fermetures de lits, des manques de personnel. Et je voulais finalement mettre ça en scène
Là, pour le coup, je me suis inspirée de ce que j'ai vu, mais en fait, quand j'y étais, je regardais pas ça. Évidemment, c'était pas du tout ça qui m'intéressait à l'époque. Mais bon, je me suis inspirée de l'actualité, d'articles de presse, pour essayer de retranscrire un peu les difficultés qui peuvent exister, et notamment en réanimation pédiatrique. Et c'est une situation qui malheureusement persiste. C'est que comme ce sont des services de pointe avec une très forte implication des soignants, dans des conditions de travail relativement difficiles, voire très difficiles, eh bien, on manque de personnel, et quand on n'a pas le quota d'infirmières, on va dire, par patient, on est obligé de fermer des lits. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des situations qui sont mais à peine croyables, et encore aujourd'hui, et pourtant ça fait un moment que je m'intéresse à cette question, je comprends pas comment c'est possible, qu'on se retrouve avec des hôpitaux qui sont pas en mesure d'accueillir des enfants dans des situations parfois très critiques. Et ça a été le cas en Île-de-France à plusieurs reprises, où certaines nuits à Paris, il n'y a zéro place pour accueillir des bébés ou des enfants en situation critique, qui sont transférés parfois à plusieurs centaines de kilomètres de chez eux. Donc ça c'est quelque chose que je trouve proprement insupportable, et que j'avais envie de raconter, mais pas uniquement sous l'angle des chiffres, enfin des choses qu'on a l'habitude d'entendre, mais c'était en ça que la fiction je trouve était intéressante, parce que ça permettait de se rendre compte de quoi on parlait, quoi.
La journée a été longue, épuisante, mais Irène est soulagée. Ses patients les plus critiques vont mieux. Les petits jumeaux ont commencé à prendre un peu de poids. Entre deux urgences, elle a même réussi à assister à l'assemblée générale organisée par ses collègues pour parler des deux nouvelles fermetures de lits qui se sont ajoutées à celles du début de la semaine. Ça l'a un peu déprimée, surtout d'entendre une des meilleures infirmières du service se poser ouvertement la question de jeter l'éponge et quitter la réa. Trop de pression, trop d'heures. Trop de responsabilités pour un salaire qui ne lui permet même pas de se loger à Paris. Habituellement, Irène n'est pas du genre à trop s'inquiéter, on trouve toujours des solutions. Mais là, elle sent que le bateau prend l'eau de toutes parts. L'autre jour, un de ses collègues a dû réveiller des parents en pleine nuit pour leur dire que leur enfant allait mieux et qu'il fallait qu'il libère son lit au plus vite pour qu'on puisse accueillir un cas plus critique. On n'est plus bien loin du point de rupture. 9 mois 9 jours, page 209.
Je crois dans le fond que ce livre, il raconte une épreuve. Il raconte la manière dont on traverse une épreuve. En l'occurrence, il s'agit de la perte d'un bébé. Et c'est quelque chose dont je pouvais parler parce que je connais cette épreuve-là. Mais j'espère que le livre sera lu aussi par des gens qui n'ont pas du tout ce vécu-là, mais qui pourront se retrouver dans ce chemin, on va dire, de traverser d'événements comme ça qui peuvent arriver dans la vie et tout d'un coup nous tomber dessus de manière très violente. Et là-dessus, je pense que des gens qui ont perdu un proche dans des circonstances inattendues, ou même qui ont connu un accident de la vie, enfin c'est des choses qui sont assez universelles finalement. Après, je pense évidemment aux personnes qui liront ce livre, qui ont connu par le passé ou qui connaissent au moment où ils lisent ce livre un deuil périnatal. C'est quelque chose, évidemment, j'y ai pensé en l'écrivant, et encore aujourd'hui, à chaque fois que je reçois un message de quelqu'un qui y est confronté en ce moment et qu'on me dit que ça a pu, d'une manière ou d'une autre, les aider, ça me bouleverse systématiquement, ça, on va pas se mentir, mais je me dis que ça a une utilité. Ça a une utilité à la fois pour les personnes qui y sont confrontées directement, parce que j'espère leur donner aussi un peu d'espoir dans le livre, dans la manière dont je l'ai raconté, et en ouvrant comme ça sur la possibilité de surmonter et de survivre finalement à cette perte. Et puis, je pense aussi beaucoup aux proches des couples concernés, parce que je pense que c'est très difficile, en fait, de raconter ce qui nous arrive au moment où ça nous arrive, mais je me dis que ce livre pourra donner à voir à des proches qui osent pas forcément poser des questions ce qui peut se passer dans l'esprit de parents qui perdent leur bébé. Quand avec mon éditrice, on a considéré que le manuscrit était suffisamment abouti, il y a tout un travail qui s'est enclenché justement avec la maison d'édition pour retravailler sur le texte, voilà, apporter des corrections. C'est un travail que j'attendais, donc j'étais très contente de le faire, mais ça, voilà, ça prend quand même plusieurs semaines. Effectivement, à la fin, quand ce travail-là a été terminé, au bout de quelques mois, et que je me suis dit que je ne pourrais plus toucher au texte, je me suis sentie quelque part soulagée, parce qu'on a toujours envie d'y revenir et de tout recommencer, et ça, c'est plus possible. Donc j'étais soulagée, et en même temps, je commençais à être impatiente d'avoir les retours de d'autres lecteurs que les gens qui me suivaient dans la maison d'édition. Ce que j'ai ressenti quand j'ai reçu mon livre, c'était quasiment indescriptible, dans le sens où je tenais entre les mains finalement la promesse que j'avais faite à Elias. J'étais à la fois fière, heureuse d'être allée au bout de ce projet, et puis voilà, je me suis dit qu'à partir de ce moment-là, j'avais fait à peu près tout ce que je pouvais pour honorer l'existence et la vie de mon fils. C'est ce que je lui avais promis quand il était là avec nous. Voilà, je me suis sentie encore plus sa maman, je crois.
Ce second épisode de la série Les Challenges du deuil périnatal s'achève et je tiens à remercier Pauline pour son témoignage. Je vous rappelle que Pauline Lavaux est l'autrice du roman 9 mois, 9 jours, paru aux éditions Fayard à l'automne dernier. Pour découvrir l'histoire de Pauline, vous pouvez écouter l'épisode d'Au revoir podcast dans lequel elle était mon invitée. Je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au revoir podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode inédit. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Au revoir podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.